découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Voilà, nous poursuivons donc notre catéchèse sur la doctrine sociale de l'Église par un certain nombre de réflexions et de développements un peu plus personnels. En particulier, comme nous l'avons déjà commencé depuis quelques catéchèses, sur la question de l'Église et de la démocratie. On se rappelle en effet la définition que nous avons donnée de la démocratie, qui est le système au sein duquel le pouvoir appartient au peuple, hein, démos, le peuple, qu'il exerce directement ou plus généralement, évidemment, par la voix de ses représentants. C'est sûr qu'on constate aujourd'hui que l'écrasante majorité de nos concitoyens considère, de nos jours, que la démocratie est l'unique forme de gouvernement concevable. Et pour la quasi-totalité de ceux-ci, la démocratie est très certainement le seul régime politique susceptible de respecter les droits, les libertés et la dignité des personnes qui vivent en société. On voit bien, par exemple, quand on connaît des régimes assez autoritaires, pour ne pas dire totalitaires, en Afrique, par exemple, eh bien, on prétend aller exporter notre conception de la démocratie telle que nous la vivons en Occident. Nombreux sont en revanche ceux de nos concitoyens qui perçoivent confusément et qui déplorent que la démocratie ne fonctionne pas exactement comme il faudrait ou comme ils le voudraient, ou qui finissent par se demander si la souveraineté populaire n'est pas davantage un mythe qu'une réalité. Voyez, le fait est qu'en pratique, le fonctionnement des institutions est généralement loin de correspondre, y compris dans un pays comme le nôtre, à celui d'une démocratie idéale. De toute façon, il n'y a pas de démocratie idéale, mais on peut y tendre d'une certaine manière. C'est en tout cas ce que souligne saint Jean-Paul II, qui dans plusieurs de ses encycliques, lui qui a écrit de nombreuses encycliques sociales, s'est penché sur ce qu'il convient d'appeler les conditions d'une saine et authentique démocratie. C'est sûr que quand on voit, même si c'est un temps particulier qui ne devrait être que transitoire, cet état d'urgence sanitaire qui s'étale sur plusieurs mois et peut-être même plusieurs années en France, où l'on voit que la démocratie ne fonctionne pas complètement, c'est-à-dire que le gouvernement peut prendre des décisions sans être contrôlé vraiment par le Parlement, et à travers un conseil de défense, eh bien, finit par prendre des décisions par lui-même, sans être complètement contrôlé par la représentation du peuple, hein, qui est la représentation parlementaire. Parmi les obstacles susceptibles de fausser ou de dénaturer la vie démocratique, figure en bonne place l'impact parfois démesuré des médias et des moyens de communication modernes, qui, loin de s'en tenir à leur mission d'information dans le respect de la vérité des faits et du pluralisme, aussi des opinions, sont tout à fait capables d'influencer, d'orienter, de modeler ou tout simplement de manipuler l'opinion publique. Vous voyez, c'est assez probant qu'aujourd'hui, si vous avez quelques médecins, quelques scientifiques, qui d'ailleurs parfois se rassemblent en collectif et expriment des opinions fondées parfois scientifiquement, qui soient en discordance ou dissonantes par rapport à la doxa officielle, qui elle-même émane d'un gouvernement conseillé par un conseil scientifique, eh bien, on voit disparaître de la toile certaines de leurs interventions, censurées par YouTube, etc. Donc, on se demande quand même là si les médias et les réseaux sociaux n'ont pas quelquefois un pouvoir exorbitant, comme on aura l'occasion de le redire. Rappelons d'ailleurs que dans son fameux radiomessage de Noël 1942, vous vous souvenez, sur la démocratie, de Noël 1944 exactement, le pape Pie XII considérait qu'une vraie démocratie ne pouvait se concevoir et subsister qu'au sein d'un vrai peuple. Notion qu'il oppose, vous rappelez, à la masse, qui, disait-il, je cite, « tombe facilement entre les mains de quiconque en exploite les instincts et les impressions. » Fin de citation. C'est en tout cas manifestement ce que redoute saint Jean-Paul II, qui dans l'encyclique « Centesimus Annus » du 1er mai 1991, c'est-à-dire au lendemain de la chute du mur de Berlin et du communisme, en Europe centrale et en Europe de l'Est, hein, 91 c'est la chute de l'Union soviétique, 89 la chute du mur de Berlin, s'interroge sur les conditions d'une démocratie digne de ce nom, en considérant que la liberté des hommes, et je cite le passage, peut être entravée du fait de la manipulation par les médias qui impose, au moyen d'une insistance bien orchestrée, des modes et des mouvements d'opinion, sans qu'il soit possible de soumettre à une critique attentive les prémices sur lesquelles ils sont fondés. » Fin de citation, c'était le numéro 41 de cette encyclique, « Centesimus Annus ». Les mots sont forts, ils sont de saint Jean-Paul II, ils ne sont pas de moi, hein, je me contente de les citer. Vous voyez, ça mérite quand même réflexion. Ces préoccupations sont d'ailleurs aujourd'hui partagées par le pape François, qui, conviant les journalistes et les utilisateurs de réseaux sociaux à dénoncer les « fake news », comme on dit aujourd'hui, les fausses nouvelles, déclarait le 24 janvier 2018, je cite, « Diffuser des fausses nouvelles peut viser des objectifs particuliers, influencer des décisions politiques et servir des intérêts économiques. » Avant d'ajouter que la journée mondiale des communications sociales du 13 mai 2018 aurait pour thème, cette année-là, la lutte contre la désinformation et pour intituler « La vérité vous rendra libre », c'est Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8. Vous voyez comment les papes ne sont pas dupes sur l'influence que peuvent avoir les médias dans la diffusion de nouvelles plus ou moins partielles, voire erronées, on n'hésite pas à parler de fausses nouvelles, pour manipuler l'opinion publique et préparer des décisions politiques unilatérales. Peut-être qu'on peut se poser la question aujourd'hui, avec un peu de recul, je ne veux pas rentrer précisément dans ce débat ou dans cette controverse, mais on peut se demander aujourd'hui si un certain nombre de décisions prises par le gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire ne sont pas liées à la diffusion de mauvaises nouvelles, de fausses nouvelles, ou l'exploitation, ou l'exagération de certaines nouvelles qui sont données en boucle et qui finissent par manipuler à travers la peur l'opinion publique.